بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahidin, écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et les commentaires de son charh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et au dernier cours, donc, on a commencé un nouveau chapitre qui s'intitule Babu Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-Dhunub, c'est-à-dire le mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Et dans ce chapitre, on avait mentionné donc l'explication de la signification du titre du chapitre et les détails au sujet de ce que ce titre-là implique. Et maintenant, on va juste lire le verset et les hadiths qui sont reliés au chapitre pour que la compréhension de ce qui suit va être, pour que ce soit plus simple et plus facile à comprendre. Donc, le premier verset que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est le hadith 82 dans Surat Al-An'am. Il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Ça c'est le premier verset, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice. Ensuite, il mentionne un hadith. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans associé, sans partenaire, et que Muhammad et son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que Isa et son est un esclave d'Allah et son messager, et qu'il est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en Maryam et une âme de lui, une âme de sa part, et que le paradis est véridique, et que l'enfer est véridique, ou bien plutôt que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et ensuite, un autre hadith qu'il a mentionné, c'est le hadith qui est rapporté selon Utban par l'imam al-Bukhari et Muslim. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمًا عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer celui qui a dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah en recherchant par cela le visage d'Allah. Il cite ensuite un autre hadith. C'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc ça c'est un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa a dit ô mon Seigneur, apprends-moi quelque chose par lequel je pourrais te me souvenir de toi et t'invoquer. Alors il dit ô Moussa, la ilaha illallah. C'est-à-dire, il a mentionné la parole de la ilaha illallah. Alors, Moussa alayhi salam a dit, mais tous tes serviteurs disent cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Moussa, si on prenait les sept cieux et tout ce qui habite dedans, hein, et les sept terres, et qu'on les mettait sur un des plateaux d'une balance, et que sur l'autre côté de, sur l'autre, l'autre plateau de la balance, on posait la ilaha illallah, eh bien, le plateau sur lequel la ilaha illallah a été posé serait plus lourd dans la balance que les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'a authentifié. Et At-Tirmidhi, il l'a mentionné dans un hadith qu'il a déclaré comme étant Hassan. Selon Anas, il dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul » قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc Tirmidhi ici il rapporte selon Hassan, dans un hadith qu'il a déclaré Hassan, selon Anas, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, si vous me venez avec des péchés aussi grands que la terre, des péchés en quantité aussi grande que la terre, et que vous me rencontrez sans rien avoir associé avec moi, sans avoir fait de shirk avec moi, hein, eh bien je vais vous donner la quantité équivalente de pardon. Donc ça, c'est les hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet du mérite du tawhid et ce que le tawhid peut effacer ou expier comme péché. Donc on va commencer par maintenant l'endroit où on s'était arrêté au dernier cours, c'est-à-dire l'explication du verset 82 dans Sourate Al-An'am. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ce verset là, il dit وقول الله يجوز بالرفع لأنه معطوف على باب أي باب فضل التوحيد وقول الله تعالى ويجوز بالجر يكون معطوفا على التوحيد والتوحيد مجرور بالإضافة فيكون باب فضل التوحيد وقول الله تعالى. Donc il explique que il est permis de dire يعني قول avec الرفع, c'est-à-dire avec une dhamma ou bien avec الكسرة, et il explique dans les deux sens qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Donc c'est des points plus grammaticaux. Donc on a déjà expliqué qu'on ne va pas traduire les points grammaticaux à moins que ce soit relié avec quelque chose qui est directement impliqué avec le sujet de la aqida, mais sinon on ne va pas traduire les points de grammaire. Le cheikh il a dit, il cite donc le verset وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Donc ceux qui ont cru qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, de quelconque injustice, ceux-là, ils auront la sécurité, ils seront bien guidés. Et pour bien comprendre ce verset-là, il faut bien comprendre le contexte des versets qui viennent avant. Le verset qui vient avant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire le verset en question avec le verset précédent pour voir un peu plus clairement sa signification. Donc c'est le verset 81. Ou même on peut même reculer encore un peu plus. C'est avec par rapport à l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Hein? Donc à partir du verset 74. Hein? وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit, rappelle le moment où Abraham dit à son père Hazar, prends-tu comme idole, hein, prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Et le verset suivant, وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَاغِزًا بَازِغًا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Donc on va lire ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: ainsi nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Puis lorsqu'il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Et lorsqu'il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir de rien, à partir du néant, les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des partenaires et des associés, ou qui font le shirk avec lui. Et son peuple disputa avec lui, mais il dit, allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Et je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et c'est là qu'il dit ensuite, et comment aurais-je peur des associés ou des choses que vous donnez à Allah comme partenaire et comme associé, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah, de donner à Allah des partenaires et de lui associer des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Et c'est là que vient le verset 82. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire quelque injustice, et comme on va le voir, la signification de l'injustice al-dhulm ici, c'est le shirk. Donc ils n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque forme de shirk, ceux-là, ils ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc, ça c'est le contexte du verset en question. Et quand on connaît donc les versets qui précèdent, eh bien ça nous aide à comprendre mieux encore la signification de ce verset et pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il l'a mentionné dans ce contexte-là. Et quand on va lire l'explication avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, ça va devenir encore plus clair parce qu'il y a des choses très intéressantes à comprendre par rapport à ce verset. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh Al-Fawzan, il commente, il dit, « هذه الآية من جملة ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه. » ولما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد الله عز وجل وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية حاجوه وخاصموه وخوفوه من آلهتهم أن تصيبهم، فرد عليهم: أتحاجوني في الله أي أتخاصمونني في الله عز وجل وقد هدان، يعني دلني إلى التوحيد ووفقني إليه. Donc le cheikh explique que ça fait partie des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la discussion ou l'argumentation qu'il y a eu entre Ibrahim et son peuple. Et il dit que lorsque Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple au tawhid et à l'unicité d'Allah, et que son peuple c'était des idolâtres, c'était des gens qui adoraient des statues, des idoles et des étoiles. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il les a critiqués, il a condamné ce qu'ils faisaient comme shirk et comme idolâtrie. Et il leur a ramené des arguments et des preuves, et il a débattu avec eux. Et eux ont essayé de lui faire peur avec leur divinité et avec leurs idoles, hein, en le menaçant, hein, essayant de lui faire peur, en lui disant que leurs idoles et leurs divinités allaient le frapper par un mal quelconque. Alors Ibrahim alayhi salam leur a répondu en disant: est-ce que vous voulez disputer avec moi à propos d'Allah alors qu'il m'a guidé, c'est-à-dire qu'il m'a indiqué, hein, et il m'a établi sur la preuve par rapport au tawhid, et il m'a donné le succès par rapport à, hein, la guidance et par rapport à la foi et la foi en son unicité. Donc il dit ensuite: ثم قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أي لا أخاف من هذه الأصنام لأنها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع وإنما هي حجارة يصنعونها على شكل صور يعبدونها من دون الله كما قال تعالى قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فكيف يخاف منها أو كيف يخاف منها خليل الله وكيف يخاف منها أهل التوحيد والإيمان أبدا أهل التوحيد لا يخافون من غير الله عز وجل بل يقول لا يخافون من غير الله لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين هذا هو الواجب على المسلم أن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه ولا يخاف من غيره خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف أو إلى المخوف بالذبح والنذر له لأن هذا هو الشرك الأكبر. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans le verset, en mentionnant les paroles de Ibrahim alayhi salam, il dit: je n'ai pas peur de ce que vous associez avec Allah excepté si Allah a voulu quelque chose. Et donc il dit, le cheikh il dit à propos de ça, c'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam il dit: je n'ai pas peur de vos idoles, vos idoles elles ne sont rien, elles ne peuvent pas me faire du tort, hein, et elles ne peuvent pas me profiter non plus, elles ne sont que des pierres que vous avez fabriquées vous-même et auxquelles vous avez donné une forme et vous les adorez en dehors d'Allah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 95 et 96 dans sourate As-Saffat, dit: est-ce que vous adorez ce que vous, hein, avez vous-même gravé ou sculpté, et alors que c'est Allah qui vous a créé, et ce que vous faites, hein, il vous a créé, et ce que vous faites, alors comment Ibrahim alayhi salam pourrait-il avoir peur, hein, et comment, hein, il dit, comment pourrait-il avoir peur, et comment les gens du tawhid et de la foi pourraient-ils avoir peur des idoles, hein? Il dit: non, jamais. Les gens du tawhid n'ont peur que d'Allah. Ils n'ont pas peur ni des idoles, ni des morts, ni des djinns, ni des diables. Hein? Il dit ça, c'est l'obligation pour le musulman de ne craindre que Allah. Hein? Donc le croyant, il ne craint que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas peur d'autre que Allah d'une crainte de révérence et d'adoration. Hein? Donc celui, c'est-à-dire cette crainte avec révérence et avec adoration, elle ne peut être que pour Allah seul. Et c'est la crainte qui est accompagnée d'humilité et de soumission, hein, et de rapprochement, hein, envers la chose ou envers la personne crainte. Donc cette crainte-là, elle ne peut être offerte qu'à Allah. Donc ceux qui craignent autre que Allah de cette manière, hein, comme ils vont faire des sacrifices pour la chose qu'ils craignent, ou leur idole, ou pour autre chose en dehors d'Allah, et donc il dit dans ce cas-là c'est du shirk. Et il dit وقال إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأنداد ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأنتم أولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله عز وجل ولهذا قال فأي الفريقين أحق بالأمن أيهما أحق بالأمن الذي أشرك وكفر بالله أم الذي وحد الله وأطاعه. Donc le cheikh il explique, il dit que Ibrahim alayhi salam il leur a dit, et comment moi j'aurais peur de ce que vous associez avec Allah comme idole et comme seigneur que vous attribuez, hein, comme des égaux avec Allah, alors que vous n'avez pas eu peur de lui donner des associés et des partenaires, et que vous lui avez donné des partenaires et des associés dans l'adoration, alors que Allah n'a révélé à leur sujet aucune autorité, aucune preuve. Alors qui mérite plus d'avoir la crainte et d'avoir peur, hein? Est-ce que c'est vous qui avez fait le shirk avec Allah, hein? Donc il dit ça, c'est clair que c'est vous qui méritez, que c'est eux qui méritent plus d'avoir peur pour avoir fait le shirk, tandis que la personne qui est sur le tawhid, elle n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah il dit dans le verset, alors lequel des deux groupes mérite plus la sécurité, hein? Lequel des deux groupes mérite plus d'être en sécurité? Est-ce que c'est le groupe qui fait le shirk et qui renie la foi en Allah, ou bien est-ce que c'est le groupe qui a unifié Allah et qui l'a obéi? Et il dit le cheikh, تحداهم بهذا السؤال بالبرهان والدليل لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق ثم حكم الله في المسألة فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد أما أهل الشرك لا يحصل لهم أمن مطلقا والعياذ بالله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك فالمراد بالظلم هنا الشرك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية شق عليهم ذلك فقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه ويطلق على النقص كذلك كقوله تعالى أأنت كقوله تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا والظلم في الشرع ثلاثة أنواع. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on a lu maintenant. Le cheikh il a expliqué donc que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc lequel des deux groupes mérite plus d'être en sécurité? Est-ce que c'est le groupe qui a fait le shirk avec Allah et qui a renié la foi en lui, ou le groupe de ceux qui ont unifié Allah et qui lui ont obéi? Et il les a défiés par cette question avec les preuves, hein, et les évidences, et non pas avec des discussions insensées ou des argumentations injustes. Et donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a tranché et il a jugé dans la question par le verset 82 lorsqu'il dit « Ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi de quelconque injustice, ceux-là sont ceux qui ont la sécurité et ils sont ceux qui sont bien guidés. » Et donc, la sécurité ne peut être obtenue que de la part des gens du tawhid. Tandis que les gens du shirk, ils ne peuvent obtenir aucune sécurité. Et le shaykh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi, c'est-à-dire leur tawhid, il n'a pas été recouvert d'injustice. Et quand il dit le zulm, l'injustice en question, c'est le shirk. C'est-à-dire leur tawhid n'a pas été touché par une impureté quelconque et leur foi n'a pas été recouverte de shirk. Il n'y a pas de shirk qui est mélangé avec leur foi. Et les sahaba, lorsque ce verset-là a été révélé, eh bien ils ont trouvé ça difficile parce qu'ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala parlait de l'injustice. Dans le fait de se faire de l'injustice à soi-même quand on commet des péchés, quand on fait quelque chose de mal. Donc eux, ils ont lu ça et ils ont eu peur parce que, si c'était le cas, si c'était n'importe quel péché que quelqu'un commet ou une injustice qu'il se fait à lui-même, eh bien ça c'est quelque chose de très très lourd parce que tout le monde commet des péchés. Alors ils ont dit au messager, Ya Rasulallah, وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ au messager d'Allah, lequel d'entre nous n'a pas fait d'injustice envers lui-même, envers son âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, ou leur a répondu en disant, ce n'est pas ce que vous avez pensé. C'est plutôt l'exemple de la parole de Luqman lorsqu'il a dit à son fils, « Oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah. » Car certes, le shirk est la plus grande des injustices. Donc, ça c'est le verset 13 dans Surat Luqman. Et ce récit, il est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et le shaykh, il explique ensuite que le terme « zulm » en arabe, il signifie de mettre une chose autre qu'à la place où elle va. De mettre une chose à une place autre que là où elle va. Et donc, on peut l'appliquer également pour désigner lorsqu'il y a un manquement ou quelque chose qui manque à quelque chose, on peut dire que c'est un zulm. Comme l'exemple du verset 33 dans Surat Al-Kahf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du jardin de la personne et qu'il mentionne que son jardin, il donnait toujours des fruits et il dit « وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا » Il ne lui en manquait jamais. L'âme tazlim, ici, le terme zulm qui est employé, c'est pour désigner le manque. Donc il n'y avait jamais de manque dans ces récoltes, il n'y avait jamais de perte. Et le shaykh explique maintenant, ensuite, les significations différentes du terme zulm et qu'est-ce qu'il peut signifier dans la religion. Et il dit wa zulmu fi shar'i thalathatu anwa'. An-naw' al-awwal wa huwa a'zamuha الظلم ظلم الشرك لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم فالمشركون أعظم ظلما لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها ولأنهم تنقصوا حق الله عز وجل والنوع الثاني ظلم العباد بالتعدي عليهم بأكل أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو الخوض في أعراضهم وظلم العباد بعضهم لبعض خطير جدا لأن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة فقط بل لا بد أن يسمحوا عن حقوقهم وإلا فإنه سيقتص للمظلومين يوم القيامة والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك لأنه وضعها في غير موضعها اللائق حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى والمراد بالظلم في الآية ظلم الشرك وهو أعظم أنواع الظلم كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم فمن خلط
أو خلط عبادته بشرك بطلت. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il explique maintenant, et ça c'est très important, c'est très important de comprendre ces trois catégories d'injustice dans la religion. La première catégorie d'injustice, c'est la plus grave et la plus grande, c'est le zulm, l'injustice du shirk. Et c'est de mettre une adoration autre qu'à sa place, c'est-à-dire d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande et la plus grave de toutes les formes de shirk. Et il dit le shaykh que les mushrikoun, hein, ils sont donc les plus grands en injustice et les plus injustes parmi les hommes, parce qu'ils ont mis l'adoration ailleurs qu'à sa place, c'est-à-dire ils ont offert des formes d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande forme d'injustice. Parce qu'ils ont diminué ou essayé de rabaisser le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont diminué le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie d'injustice, c'est l'injustice dans le fait de transgresser contre les personnes et contre les hommes. Et le cheikh, il dit, ça peut se manifester de différentes façons, soit dans le fait de consommer les biens des gens de manière illicite, ou de les frapper, ou de les tuer, ou de porter atteinte à leur honneur, et de faire de l'injustice aux hommes et aux créatures. Ça, c'est une chose très dangereuse et très grave, parce que les droits des serviteurs et les droits des créatures, elles ne tombent pas même lorsque quelqu'un s'est repenti. Si quelqu'un ne fait que se repentir entre lui et Allah, c'est pas suffisant pour faire tomber cette injustice-là. Il faut que la personne contre qui on a fait l'injustice nous excuse dans ses droits qui ont été brimés. Sinon, eh bien, il doit y avoir une compensation et une restitution des injustices qui soient faites au jour de la résurrection. Hein? Donc, ça veut dire que c'est très grave. Hein? Même si quelqu'un, il a, par exemple, volé ou tué ou fait une injustice à quelqu'un, peut-être qu'il s'est repenti à Allah dans cette dunya. Allah lui pardonne. Mais est-ce que la personne va lui excuser, hein? La personne va l'excuser dans cette injustice-là? Si elle ne l'excuse pas, eh bien, la personne va devoir payer des comptes à cette personne au jour de la résurrection. Il n'y a pas d'injustice qui peut passer comme ça, hein, sans qu'il y ait une réparation. Il n'y a pas d'injustice qui va passer sans qu'il y ait une réparation. Peut-être que quelqu'un, il se dit, hein, je ne me suis pas fait prendre, ça va passer. Hein. Au jour de la résurrection, tu vas être devant la personne à qui tu as fait de l'injustice, et tu vas être obligé de lui repayer, hein, réparer cette injustice-là. Et en général, au jour de la résurrection, on sait qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Ce n'est pas par de l'argent qu'on répare les fautes. Au jour de la résurrection, hein, c'est avec des hasanats. Donc, quelqu'un, il va se servir dans tes bonnes œuvres, hein, au jour de la résurrection, et puis donc tu risques de gaspiller toutes les bonnes actions que tu as fait et les efforts que tu as fait pour les faire. Tu arrives au jour de la résurrection satisfait et content d'avoir fait toutes ces bonnes œuvres là. Tu as fait plein de prières, plein de jeûnes, plein de charité et d'aumône, mais tu as fait de l'injustice envers les gens. Eh bien, qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Eh bien, les gens, ils viennent se servir dans tes hasanats, hein, pour réparer les fautes que tu leur as faites. Et donc, à la fin, toute ta montagne de hasanats, elle disparaît devant tes yeux et tu te retrouves avec rien. Et s'il te reste plus rien et que tu as encore des injustices à réparer, eh bien, c'est les autres qui vont venir vider leur péché dans ta balance. Alors là, tu te retrouves avec... Wa alaykoum salam, avec une accumulation de péchés. Allah al-musta'an. Et tout ça, c'est parce que tu as fait de l'injustice aux gens. Donc, c'est uniquement de ta faute. Tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même. Et la troisième catégorie d'injustice, c'est l'injustice que le serviteur se fait à lui-même en commettant des péchés qui sont moindres que le shirk, hein, parce qu'il a, il a, il a mis, يعني son, il a mis ses, ses, il dit وضع في غير في غير موضعها اللائق. Donc il a mis son âme à un endroit où elle ne méritait pas d'être en la plaçant sous la menace de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est fait de l'injustice à lui-même, il a fait du tort à son âme en la mettant sous la menace du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le dans le verset 82 dans sourate Al-An'am, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle du dhulm, hein, dans ce verset là الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, il parle du shirk. Hein, et c'est la plus grave et la plus grande des trois formes d'injustice qu'on a mentionné, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans surat Luqman, inna shirka la dhulmun azim, le shirk c'est la plus grande injustice. Et il dit ça c'est parce que lorsqu'une adoration quelconque est mélangée avec du shirk et qu'il y a du shirk dans l'adoration de quelqu'un, eh bien cette adoration là devient vaine, hein, et devient nulle. Elle n'a plus de valeur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 88, dans surat Al-An'am, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et s'ils avaient commis du shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre aurait été vain. Et le shaykh il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ hein, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ يعني وَهُوَ السَّلَامَةُ الْمُطْلَقَةُ مِنَ الْمَخَاوِفِ فالمؤمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que donc ceux qui ont cru et qui n'ont pas ni corrompu leur foi avec du shirk, ceux-là ils auront la sécurité, ils auront as-salama, ils auront la paix et la sécurité au jour de la résurrection vis-à-vis de tout ce qui peut leur faire peur, hein. Et ils sont croyants, donc ils ont al-amn, hein, hum fal-mu'minun la khawfa alayhim wa la hum yahzanun, ils vont pas avoir de crainte, ils vont pas avoir de tristesse. Le cheikh il dit aussi يعني إذا فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه شيء من المعاصي ولم يحصل منه شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه وإن كان المؤمن موحدا ولكن عنده شيء من المعاصي فهذا له مطلق الأمن لأنه معرض للوعيد ولكن له يأمن من الخلود في النار وأما المشرك فله الخوف المطلق ليس الذي ليس معه أمن وهم مهتدون يعني يعني la suite du verset وهم مهتدون يعني في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله على بصيرة ولا لا على جهل وضلال وبدع وخرافات فهذا فيه فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة بخلاف المشرك فإنه ليس له أمن أبدا في الآخرة وهو في الدنيا على غير هدى. Donc le cheikh il termine l'explication, donc le début de l'explication, parce qu'on n'a pas fini de l'expliquer. Il dit que il explique que donc ceux-là sont ceux qui ont la sécurité. On a expliqué que ce sont eux, ils n'auront aucune crainte au jour de la résurrection. Et le cheikh il explique que par contre ça c'est relatif par rapport aux croyants. Si c'est un croyant qui était sincère dans son tawhid et qui n'a pas commis de shirk du tout et il n'a même pas commis de péché non plus, ou bien s'il a commis des péchés, il s'en est repenti avant sa mort, alors lui, il aura la sécurité complète, hein, et absolue. Il n'aura aucune crainte du tout de quoi que ce soit, hein, et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mentionné dans le hadith, qu'il y a 70 000 يدخلون الجنة min ghayri hisab, bi ghayri hisabin wala adhab. Il y a 70 000 parmi les musulmans, parmi les croyants qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Hein? Donc ça c'est un degré plus élevé de foi et de perfection dans le tawhid. Hein? Et il y a des croyants par contre qui ont été sincères dans leur tawhid, toutefois ils ont été leur tawhid, ils ont été moins sincères que d'autres. Peut-être qu'il y avait des péchés, peut-être qu'il y avait des fautes qu'ils ont commis qui font que leur tawhid est moins fort que les autres. Et les péchés qui sont moindres que le shirk ne détruisent pas le tawhid, mais ils peuvent diminuer de sa sincérité ou de sa force ou de sa grandeur. Et donc la sécurité, elle va pas être absolue dans ce cas-là, mais ils vont avoir la sécurité du châtiment éternel d'Allah, puisque même si à cause de ces péchés-là, même s'ils ont fait des kaba'ir, ils vont peut-être aller en enfer, mais ils ne vont pas y rester éternellement. Donc ils ont une certaine sécurité quand même, tandis que le mushrik, lui, il n'aura que la crainte absolue et il n'aura aucune sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a été mushrik, il a commis le shirk, qui est le plus grand des péchés, le péché que Allah ne pardonne pas. Inna shirka la inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ensuite, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue la suite du verset, yani, oulaika lahumul amnu, ceux-là, ils auront la sécurité, wahum muhtadun, et ils seront bien guidés, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Dans cette vie d'ici-bas, ils seront bien guidés parce qu'ils adorent Allah seul avec connaissance, et non pas avec ignorance et égarement, ou avec des innovations et des superstitions. Et il y a ici dans ce verset, comme le cheikh il l'explique, le mérite du tawhid, et que par le fait d'être sur le tawhid, une personne obtient la sécurité au jour de la résurrection, contrairement au mushrik, parce que lui, il n'aura jamais de sécurité dans l'au-delà. Et dans cette vie d'ici-bas, il est sur autre que la guidance, et ça c'est la grande perdition. Wal'iyadu billah. Donc ça c'est l'explication que le cheikh Al-Fawzan a donnée à propos du verset en question. Maintenant, si on revient au charh de cheikh Abdurrahman ibn Hassan, quand il parle du terme qui est employé dans le verset Al-Libs, Al-Ladhina amanu wa lam yalbisu imanahum. Donc il dit Wal-Libsu huna al-Khalt. Al-Khalt. Donc, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par al-libs ici, c'est le fait de mélanger. Donc, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une forme quelconque de shirk. C'est ça que ça veut dire. Donc, al-libs huna huwa al-khalt. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça. Il dit, وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ أي وَلَا تَخْلِطُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْهُدَى بِالْضَلَالِ وَالْتَوْحِيدِ بِالْكُفْرِ وَهَذَا خَلْطٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc le cheikh explique que ce mélange-là, c'est ça qui est signifié par le terme al-libs dans le verset. Et il cite comme exemple le verset 42 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne couvrez pas la vérité par le faux. Et il explique que ça veut dire en réalité, ne mélangez pas la vérité et le faux ensemble. Ne le rendez pas mélangé pour que ça devienne une source de confusion pour les gens. Et souvent c'est ça ce que les gens de l'égarement font, les gens du kufr, ils mélangent le vrai avec du faux pour que les gens puissent plus reconnaître la vérité et le faux par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne mélangez pas la vérité avec le faux. Ne mélangez pas la guidance avec l'égarement. Ne mélangez pas le tawhid avec le kufr. Parce que ça, c'est al-khalt. Wal-iyadu billah. Et ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, وَالْمُرَادُ بِالظُّلْمِ هُنَا الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ لِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Donc ici le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par le terme injustice dans ce verset. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Il explique que يعني ici c'est le shirk majeur, les formes de shirk majeur. Et il dit que ça a été expliqué dans le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et d'autres également, et qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est uniquement le shirk, c'est-à-dire il s'agit uniquement du shirk. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux lorsqu'il a dit inna shirka la dhulmun azim, dans le verset dans sourate Luqman, c'est-à-dire le shirk c'est certes la plus grande des injustices. Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus et il dit khafa as-sahaba ridwanallahi alayhim min hadhihi al-ayah li'annahum fahimu an al-murad mutlaq adh-dhulm fayadkhulu fihi dhulm al-'abd li nafsihi فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر وذكر لهم قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء التفسير عنه صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وهذا من تفسير القرآن بالسنة وكذلك تفسيره بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى. Donc le cheikh il explique que les sahaba que Allah soit satisfait d'eux, يعني ils ont eu peur de ce verset quand ils l'ont entendu parce qu'ils ont compris le sens de l'injustice qui était mentionné dans le verset, c'est l'injustice dans son sens absolu et qui comprend également l'injustice que le serviteur peut se faire à lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il commet des péchés. Et ça nous montre un exemple de la crainte et de la sincérité des sahaba. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendaient un verset, ils se l'appliquaient automatiquement à eux-mêmes et ils se sentaient directement visés par ce verset-là et ils sentaient que yani, ils devaient tout de suite le mettre en application. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait nous aussi avoir et essayer de comprendre la signification des versets lorsqu'on les entend et de méditer sur leur signification et de vérifier les tafsirs pour essayer de voir si on a compris correctement ou si on ne s'est pas trompé dans notre compréhension. Et ça, c'est l'exemple ici des compagnons, radiyallahu anhum. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué justement qu'est-ce qui était voulu par le terme injustice et que c'était le shirk majeur. Et il leur a mentionné comme référence la parole de Luqman lorsqu'il a parlé à son fils et qu'il lui a dit Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Certes, le shirk c'est la plus grande des injustices. Et il dit que ça c'est l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené lui-même l'explication et l'interprétation du Coran. Et quand l'interprétation vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est une obligation pour nous de prendre cette interprétation-là et de ne pas se tourner vers une interprétation autre que la sienne. Et il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est le clarificateur et l'explicateur du Coran, du livre d'Allah. Et ici, il nous montre un exemple donc de l'interprétation du Coran par la Sunna et qui est en même temps une interprétation du Coran par le Coran lui-même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ramène à un autre verset du Coran pour comprendre ce verset-là. Donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait cette méthodologie d'utiliser le Coran pour expliquer le Coran. Il explique des versets par d'autres et en même temps d'utiliser la sunna pour interpréter le Coran, parce qu'on voit l'exemple ici de ce hadith qui nous aide à comprendre encore plus de façon claire le verset en question. Ensuite le cheikh il dit arada anna man lam yajtanib al-shirk lam yahsul lahu amnun wala ihtida bil kulliyah. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit il a voulu dire par là que celui qui ne s'est pas détourné ou écarté du shirk, il n'aura pas de sécurité et il n'aura pas obtenu non plus de guidance du tout. Hein? Et donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus, il dit: la amn fil akhira wa la ihtida fid dunya bil kulliya fal kafir wal mushrik la yahsul lahuma amn wa la hidaya mutlaqan بخلاف المؤمنين فإنه يحصل لهم الأمن التام أو الناقص بحسب إيمانهم في الآخرة أما في الدنيا فهم على هدى لأنهم يسمعون ما أنزل الله. Donc le cheikh il dit, ils n'auront pas de sécurité les kuffars dans l'au-delà, et ils n'ont pas reçu de guidance dans cette dunya non plus, puisque le kafir et le mushrik, eh bien, ils n'ont pas de sécurité ni de guidance, contrairement aux croyants, puisque les croyants, eux, ils ont soit la sécurité complète au jour de la résurrection, si leur foi était complète et qu'ils se sont écartés du shirk majeur et mineur et des kaba'ir et des sara'ir et des bid'a' de façon absolue, dans ce cas-là, leur sécurité sera absolue, hein, et complète. Et si, par contre, ils se sont écartés du shirk majeur, hein, mais qu'ils ont eu des kaba'ir ou des formes de shirk mineur, ou ils ont eu des bid'ah, ou bien ils ont eu des péchés, eh bien leur sécurité sera proportionnelle à leur foi, hein. Et donc comme le cheikh il l'explique, et dans cette vie d'ici-bas, eh bien les croyants ils ont reçu la guidance, et pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Allah a révélé. Donc ils ont été guidés, mais encore une fois, dans le suivi, dans l'application de cette guidance-là, ils sont guidés selon la proportion de leur foi, la grandeur de leur foi et de ce qu'ils ont mis en application de la guidance aussi, d'accord? Donc la guidance, elle est relative. C'est pour ça que dans chaque raka'a, quand on prie, on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». Hein, et si on était déjà guidé à 100%, on n'aurait pas besoin de demander à Allah de nous guider, hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, Allah subhanahu wa ta'ala il augmente ceux qui ont été guidés, il les augmente en guidance. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fâcher si quelqu'un te dit Allah yahdik, hein. Des fois il y a des gens qui leur disent Allah yahdik, ils se mettent en colère. Il dit, est-ce que t'es en train de me dire que je suis égaré ou quoi? Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de faire un dua pour toi, pour que Allah t'augmente en guidance. Hein? Donc, c'est comme une fois, il y avait un cheikh qui disait ça. Une fois, il dit, il y a des gens, tu leur fais des duas, puis ils se fâchent contre toi. Hein? Tu leur dis, Allah yahdik, puis ils disent, ah mais non, mais pourquoi tu me traites d'égaré ou quoi? Non, c'est pas ça que ça veut dire. On a tous besoin d'avoir un surplus de guidance et d'être guidé encore plus, le plus possible. Et donc c'est pour ça qu'on dit ça. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.